Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Bonjour et bienvenue dans l'éclairage, éclairage qui reçoit aujourd'hui sur Canal Académie Guy Sormand, essayiste et auteur de Made in USA, publié début septembre chez Fayard. Guy Sormand, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors cet ouvrage que vous publiez arrive bien sûr à quelques semaines du grand scrutin, l'élection présidentielle le 2 novembre aux États-Unis, qui portera à la Maison Blanche soit le président sortant, le républicain George W. Bush, ou alors le démocrate John Kerry. Première question, dans quel contexte vous voyez arriver cette élection? Quel est un peu votre pronostic sur ce qui pourrait se passer?
Voilà, la société américaine, contrairement à la société française, est très autonome envers le pouvoir politique. Donc on croit trop en France que cette élection va modifier le cours de l'histoire ou le cours de la politique américaine. Ça n'est pas le cas. Les États-Unis sont sur une trajectoire longue sur laquelle on pourra revenir. Beaucoup d'Américains ne s'intéressent pas à cette élection. La moitié d'entre eux, probablement, ne participera pas au scrutin.
Comme d'habitude.
Mais ça n'est pas du mépris pour la démocratie, c'est plutôt une confiance dans les institutions. Et parmi ceux qui participeront, comme d'habitude, les deux grandes familles de pensée, c'est-à-dire les libéraux et les conservateurs, pour utiliser le vocabulaire américain, qui coïncide à peu près avec les partis républicains et démocrates, ces deux blocs seront de force à peu près équivalentes. Et comme d'habitude, l'élection se jouera sur des marges très étroites et par conséquent imprévisibles.
Mais alors vous qui observez de très près cette civilisation américaine, est-ce que vous avez le sentiment que cette abstention est malsaine ou qu'elle est cohérente finalement? Parce qu'une foi dans le régime, c'est quelque chose, mais est-il bon d'avoir une telle foi aveugle?
Oui, mais l'abstention porte surtout sur les scrutins nationaux, enfin les scrutins qui concernent l'ensemble de la nation. Le peuple américain est beaucoup plus impliqué, alors avec une participation personnelle et un taux de participation plus intense, dès qu'il s'agit d'élections de proximité, par exemple pour désigner le conseil de parents d'élèves, le conseil de fabrique du temple, le juge ou le shérif. Donc c'est une démocratie de proximité. Pour la plupart des Américains, l'État est lointain. Dans la tradition américaine, il est presque superflu. Enfin, on compte sur lui pour assurer la sécurité intérieure et extérieure des États-Unis. Donc les Américains sont, je dirais, démocrates dans leur vie personnelle, dans leur vie quotidienne, participent aux institutions locales. Regarde toujours avec un peu de méfiance ce qui se passe au-dessus d'eux, c'est-à-dire à Washington.
Ça signifie que nous, Européens, qui voyons cette élection comme un événement, on est finalement atypique par rapport au peuple américain qui va vivre ça comme une étape quasi insignifiante de son...
Je ne dirais pas.
Je vais un peu loin.
Je ne dirais pas insignifiante, mais il est vrai que les Français, c'est normal d'ailleurs, projettent sur la société américaine leurs habitudes politiques et leurs habitudes mentales. Bon. Ce qui est une grande erreur, puisque vous l'avez dit vous-même, les États-Unis constituent une civilisation. Donc il convient, me semble-t-il, de comprendre cette civilisation avec ses critères propres et pas avec les nôtres. Alors, ça n'est pas une élection n'est jamais insignifiante, mais si l'on observe attentivement les projets des deux candidats...
On le verra plus tard.
La différence n'est pas aussi évidente que ce que l'on souhaiterait voir et entendre en France.
Alors pour rester sur ce qui va se passer le 2 novembre, on estime qu'il y a à peu près 10% d'indécis, puis il y a aussi les fameuses minorités. Comment est-ce que les minorités se positionnent finalement vis-à-vis soit du camp libéral, soit du camp conservateur, pour utiliser les termes appropriés? Il y a les hispaniques, il y a les asiatiques, il y a les afro-américains. Comment est-ce que toutes ces populations peuvent peser d'un côté ou de l'autre?
Alors, les minorités aux États-Unis ont vocation à disparaître en tant que minorité. Enfin, si on regarde l'histoire des États-Unis, comme on le sait, c'est un afflux successif de peuples qui, dans une première phase, se constitue en communauté, dans une seconde phase, se mêle à la population pour créer une sorte de nation métisse. Le destin des Afro-Américains, comme on dit aujourd'hui, est un peu distinct. Si l'on examine les comportements de la petite minorité chinoise et vietnamienne, mais qui grandit, qui est surtout présente sur la côte ouest des États-Unis. Dans l'ensemble, ce sont des conservateurs. Ce sont des familles très unies, les conservateurs, il faut bien comprendre que les conservateurs, c'est le parti républicain. Les Afro-Américains évolue. C'est-à-dire que de tradition, il votait à 100% pour le Parti démocrate. Mais depuis Ronald Reagan en particulier, on voit se constituer une classe moyenne ou classe supérieure chez les Afro-Américains qui tend à voter pour les Républicains. Mais de tradition, il n'empêche que 80% à peu près des Afro-Américains qui participent beaucoup, qui sont très mobilisés, hein, ils sont très impliqués dans la vie politique, votent pour le Parti démocrate. C'est leur parti, c'est une tradition historique. On peut parler également des électeurs juifs qui, de tradition, votent pour les démocrates. Mais c'est de moins en moins vrai. On voit également une partie des communautés juives en Floride, en Californie, se détacher d'une tradition qui est presque une tradition familiale. Les latino-américains, qui constituent le nombre le plus important, presque majoritaire dans un État comme la Californie, très présent dans le sud-ouest, n'ont pas un vote prévisible. Ils se partagent assez équitablement entre républicains et démocrates. On a vu, par exemple, dans l'élection du gouverneur de la Californie l'année dernière, les latinos, comme on dit, ont préféré Schwarzenegger, républicain, conservateur, à Bustamante, qui était pourtant un latino, et démocrate. Donc le vote latino n'est acquis pour personne. Au surplus, les latinos se fondent assez vite, contrairement à ce que l'on imaginait il y a 20 ou 30 ans, dans la nation américaine.
Alors, dans ce contexte, où se trouvent qui sont ces fameux indécis ? Est-ce qu'ils sont à chercher dans ces populations-là ou ailleurs ?
Non, les indécis sont un peu partout. Enfin, ils sont dans ce qu'on appelle les classes moyennes. Enfin, vous avez, un peu comme en France, vous avez une partie des Américains très engagés dans le camp républicain, une partie très engagée dans le camp démocrate, et puis vous avez des électeurs flottants. Ces électeurs flottants, pas plus d'ailleurs que les républicains ou les démocrates, ne se définissent par des critères socio-économiques. On ne peut pas dire que les pauvres voteraient démocrates et les riches voteraient républicains, c'est tout à fait inexact. Il s'agit plutôt de traditions familiales ou de traditions intellectuelles dans les familles.
Alors Guy Sorman, il y a lors de cette élection un trublion écologiste de quelques 70 années, si ma mémoire est bonne, qui s'appelle Ralph Nader. Ralph Nader a été, on va dire, accusé d'avoir un peu fait chuter Al Gore lors de la précédente élection en détournant justement les indécis qui aurait pu éventuellement voter côté démocrate. Est-ce que vous pensez encore aujourd'hui que Ralph Nader va avoir une influence sur le scrutin du 2 novembre ?
Alors, Ralph Nader est un personnage historique dans l'histoire des États-Unis. Il a joué un rôle extrêmement depuis longtemps. Il a joué, ça fait 40 ans qu'il est dans le jeu. C'est-à-dire qu'il a joué un rôle extrêmement important dans l'organisation de la défense des consommateurs contre les grandes entreprises. Il est devenu une sorte de symbole de l'écologisme aux États-Unis. Il est pacifiste, ce que ne sont ni Kerry ni Bush. Alors, est-ce qu'il a fait perdre ou pas Gore il y a 4 ans ? C'est un débat. Gore a plutôt perdu dans l'État du Tennessee qu'en Floride, donc probablement le résultat n'aurait pas été différent. Il n'empêche que dans une élection très serrée, la participation d'un troisième candidat comme Nader peut effectivement nuire à Kerry. Je rappelle quand même qu'il y a 8 ans, le père Bush avait été battu par Clinton à l'occasion d'une triangulaire. Et que s'il n'y avait pas eu un troisième candidat qui s'appelait Ross Perot, probablement Clinton n'aurait pas été élu. Donc le troisième larron est une machine à perdre assez constante dans l'histoire politique américaine. Ce n'est pas la première fois.
Alors justement, vous évoquiez tout à l'heure les différences et à la fois les proximités qu'il peut y avoir entre les libéraux et les conservateurs. C'est assez difficile finalement. On a tendance en France à vouloir mettre un parti à gauche, un parti à droite. Les choses sont quand même plus subtiles aux États-Unis. Finalement, ils sont tous capitalistes, tous antisocialistes, tous pour une prospérité économique. Comment est-ce qu'on fait le distinguo entre le républicain et le démocrate aujourd'hui ?
Oui, c'est bien que vous rappeliez que les deux partis sont favorables à l'économie de marché, les deux partis sont favorables à la mondialisation, les deux partis sont favorables à l'immigration, mais les républicains, ils sont un peu plus favorables que les démocrates, parce que du côté démocrate, vous avez les syndicats qui ne voient pas toujours
venir. Ce qui pourrait être frappant, d'ailleurs, ça peut sembler atypique.
Ah bah oui, la droite est plus favorable à l'immigration que la gauche aux États-Unis.
Bon. C'est vrai que le président actuel a nommé pas mal de noirs à des postes clés, notamment.
Bien sûr, et puis Ronald Reagan était très favorable à l'immigration des Mexicains. C'est ainsi, les conservateurs républicains pensent que les immigrants, si vous voulez, viennent régénérer un peu la nation américaine avec des valeurs assez conservatrice. Donc, pas de distinction sur l'économie. Sur le social, les démocrates de tradition sont plus pour les réglementations, pour les limitations de la liberté d'entreprendre, plus pour la justice sociale et la redistribution. Ça ne va pas très loin. Par exemple, Kerry ne propose pas un système de sécurité sociale à l'échelle de la nation. comme il existe en France ou au Canada. Donc, en politique étrangère, est-ce que les différences sont radicales? C'est pas très clair non plus. Ni Kerry, ni Bush, ni les démocrates, ni les républicains ne sont isolationnistes. Ils sont tous les deux pour l'intervention sur les champs extérieurs. Ils pensent tous les deux qu'il faut aller chercher, comme le dit Kerry, les terroristes là où ils sont. Donc il s'agit plutôt de nuances sur la gestion de ces interventions extérieures. Alors si on cherche une différence, parce qu'il y a une différence, c'est la laïcité. En vérité, c'est la laïcité. C'est-à-dire que le Parti républicain, les conservateurs, et surtout le noyau dur du Parti républicain, ce sont des militants très... non seulement très pieux, tout le monde est pieux aux États-Unis, mais qui considèrent que les valeurs religieuses doivent avoir une influence dans tous les champs de la société, y compris sur les programmes scolaires, les programmes sociaux, les programmes de télévision. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de, ils ne dressent pas un mur entre les valeurs religieuses et la vie politique. Les démocrates, au contraire, sont pratiquants. Encore une fois, il est impossible aux États-Unis de faire de la politique si on n'est pas pratiquant, si on n'avoue pas une confession quelle qu'elle soit. Mais ils sont, pour reprendre l'expression de Jefferson, en faveur d'un mur absolu, considérant que tout ce qui est de l'ordre du religieux doit rester dans le temple, l'église ou la synagogue, et que la vie politique et la vie scolaire et les décisions internationales ne doivent pas être influencées par les églises. Donc pour moi, c'est la laïcité qui fait la différence. Donc, c'est tout ce que ceci implique sur l'avortement, le mariage
bien
homosexuel.
Évidemment. Donc c'est sur cette dimension religieuse finalement que l'Américain fait son choix, ou alors sur le personnage qui se présente à l'élection?
Bon, le personnage est important. Ce sont, on le sait depuis l'affrontement Kennedy-Nixon en 1960, la télévision joue un rôle décisif, mais les deux personnages là sont assez charismatiques. Enfin, ils sont tous les deux charismatiques. Donc je crois que en dernière analyse, c'est sur les valeurs, comme on dit aux États-Unis, sur la laïcité que le débat va porter. Et puis évidemment sur d'autres interrogations auxquelles on ne peut pas répondre. Quel serait le meilleur président dans les 4 ans qui viennent pour faire face au terrorisme?
Alors, les politologues cherchent toujours à trouver des clivages très marqués, et notamment, on lit si, ça et là assez souvent que Bush aurait fondé son argumentaire sur la peur, tandis que Kerry a fondé les siens sur l'espoir. Est-ce que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, semble réalité?
Écoutez, ça,
vous qui êtes fréquemment là-bas.
C'est un peu une construction. C'est une construction, surtout du côté démocrate, qui accuse Bush d'exploiter la peur. Mais pour exploiter la peur, il convient qu'elle soit là. Or, la peur est là. Depuis le 11 septembre, c'est ce qui a totalement changé aux États-Unis et que l'on perçoit mal de l'extérieur. Je crois qu'il faut passer du temps là-bas pour le saisir. L'insécurité, la peur à New York, que tout le monde lève la tête quand un avion vole trop bas. Enfin, la peur, elle est présente. Depuis le 11 septembre, la peur, elle est présente. Donc, ce sentiment qui est un sentiment neuf ne peut pas être analysé depuis la France. Il ne peut être vécu que par les Américains. Prétendre que Bush exploite la peur, non, parce que ça supposerait qu'il l'ait inventée. Il ne l'a pas inventée, la peur est tout à fait présente, et les électeurs, effectivement, se demandent quel est celui qui va les protéger, non pas contre la peur, mais contre un danger qu'ils perçoivent comme tout à fait réel.
On va marquer une petite pause d'ici quelques instants, mais alors pour terminer sur ces différences démocrates républicaines, elles sont au fond relativement faibles, en tout cas bien plus faibles que chez nous entre la gauche et la droite. Est-ce qu'au fond, être républicain ou démocrate aux États-Unis, c'est pas être dans un camp ou dans l'autre uniquement par opportunisme politique et quête du pouvoir?
Alors, pour les hommes politiques, je serais tenté de dire que ce sont des professionnels. C'est-à-dire que le Parti républicain et le Parti démocrate sont des machines. Ce sont des machines à lever des fonds et des machines à prendre le pouvoir. Donc l'opportunisme, le professionnalisme, si vous voulez, joue un rôle tout à fait déterminant. Pour l'opinion publique, encore une fois, c'est une manière quand même de se reconnaître et de se situer. Une fois, beaucoup d'Américains ne se situent pas, mais la plupart, peut-être plus facilement qu'en France, s'avouent républicains ou démocrates, conservateurs et libéraux, l'affichent sur leur voiture ou dans leur jardin, ce qu'on ne voit pas chez nous. Chez nous, on n'affiche pas ses convictions politiques au moment d'une campagne. On n'installe pas un piquet sur sa pelouse en disant « votez X ». Aux États-Unis, on le fait.
Vous restez avec nous, éclairage se poursuit dans quelques instants. Je reçois aujourd'hui l'écrivain Guy Sorment.
Canal Académie.
Bonjour, c'est Christa Leuc. Retrouvons-nous tous les jours au Carrefour des Arts sur Canal Académie. Les expositions en Europe, en France et dans le monde, l'art plastique, les concerts. Quel que soit le pays d'où vous nous écoutez, il se passe toujours quelque chose. Invitation à sortir, découvrir, apprécier, humer l'air du temps artistique. Parce que les artistes n'ont pas de frontières, rendez-vous au Carrefour des Arts. Votre agenda culturel sur Canal Académie.
Chaque semaine, l'Académie des sciences morales et politiques ouvre ses portes à un conférencier. Cette année, l'Académie se penche sur la construction européenne. Les frontières de l'Europe d'un point de vue historique, l'Europe vue du monde arabo-musulman, l'Europe médiévale, l'Europe et les femmes. Radio Canal Académie vous propose de découvrir les grands sujets traités en séance. Plusieurs fois par jour, retrouvez l'intégralité des séances de l'Académie des sciences morales et politiques en écoutant Radio Canal Académie.
Suite de cette émission éclairage avec aujourd'hui sur Canal Académie, Guy Sormand, essayiste et auteur de Made in USA, publié début septembre chez Fayard. Alors, Guy Sormand, on évoquait évidemment l'élection américaine qui va avoir lieu le 2 novembre pour savoir qui sera président des États-Unis. J'aimerais revenir sur les événements qui ont modifié la donne, et on a commencé à les évoquer, les événements qui ont modifié la donne américaine, qui sont bien évidemment le 11 septembre et l'Irak. D'abord sur l'Irak, il se trouve que la Maison-Blanche est quasi officiellement accusé d'avoir menti sur cette fameuse question des armes de destruction massive, puisque le 7 octobre, les 1000 pages des services de renseignement, le rapport de 1000 pages a été publié et il conclut à l'absence d'armes de destruction massive en Irak depuis 1996. Est-ce que la thèse du mensonge est une thèse que vous partagez ?
La thèse du mensonge n'apparaît pas dans le rapport que vous citez. Le rapport et la plupart des rapports rédigés par des commissions indépendantes, comprenant des représentants des deux parties, ont dit que les services secrets, les services de renseignement n'ont pas fait leur travail, mais ils n'ont jamais accusé le président Bush d'avoir menti. C'est très important, non, parce que s'il avait menti, il se serait retrouvé dans la prison de Clinton, c'est-à-dire qu'il aurait été l'objet d'une procédure d'empêchement. Or, on a reproché à Bush d'être mal informé, on ne lui reproche pas le mensonge. C'est une distinction très importante et Kerry, d'ailleurs, ne lui reproche pas d'avoir menti. Il lui reproche d'avoir mal interprété. C'est dans la vision très moralisante, si vous voulez, de la politique américaine, ce qui nous apparaît comme des nuances est tout à fait fondamental. Encore une fois, on peut être empêché parce qu'on a menti. Mais si on est mal informé, on a pris une mauvaise décision, ça, il appartient aux électeurs, ce n'est pas aux magistrats d'en décider.
Mais est-ce qu'on peut décemment croire que George Bush a été mal informé, puisque visiblement, il y a quand même eu des commissions d'enquête en Irak, il y a eu des quantités de travaux qui ont été effectués.
Il semble véritablement, c'est incroyable, mais il semble véritablement qu'il était mal informé, mais le monde entier a été mal informé. Le monde entier a été mal informé. Je me souviens, vous vous souvenez certainement, que quand Jacques Chirac est intervenu sur cette affaire irakienne, il a dit que sur un point au moins, il était d'accord avec le gouvernement américain, c'est qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak. Donc la mauvaise information, en supposant que l'on sache la vérité, elle était largement partagée. Le débat aujourd'hui, il est ailleurs, depuis le début il est ailleurs. C'est
sur l'après-guerre.
Fallait-il intervenir en Irak ? Mais c'est un débat presque historique, parce qu'il ne s'agit maintenant que du passé, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
Voilà.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et là s'affrontent en vérité deux thèses. Qui est la thèse de l'opération de police que défend plutôt défendent plutôt les démocrates. C'est une opération de police, donc quand la police est terminée, on s'en va. La position républicaine, conservatrice, qui est de justifier l'intervention en Irak d'une autre manière, ce qu'on appelle le remodelage démocratique du Proche-Orient. La position de Bush, des conservateurs, des républicains, c'est en fait que le terrorisme ne disparaîtra ou ne disparaîtrait que le jour où ses fondements économiques et sociaux seraient éradiqués. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que le Proche-Orient et le monde arabo-musulman sera frustré de toute liberté politique et de toute prospérité économique, on verra en surgir le terrorisme islamique. Alors, et que par conséquent, l'Irak doit être un modèle, entre guillemets, de démocratisation, comme l'ont été en leur temps Taïwan, la Corée ou l'Allemagne.
Alors on va revenir tout à l'heure sur cette mission rédemptrice de l'Amérique, mais pour rester encore dans ce qui va intervenir d'ici quelques semaines, aujourd'hui, à qui profite l'Irak ? Est-ce que l'Irak profite à Kerry ? Est-ce que l'Irak profite à Bush ? Il y a ce problème de la gestion de l'après-guerre qui est un peu délicat. Est-ce qu'il y en a un des deux qui a un bénéfice à tirer de ce qui se passe actuellement en Irak ?
Alors, pour l'instant, l'Irak profite plutôt à Bush.
Pourquoi ?
L'Irak profite plutôt à Bush. Parce qu'il apparaît, à tort ou à raison, comme l'homme le plus à même de faire face à des situations difficiles. Kerry est plus respecté pour ce qui concerne la gestion de l'économie ou de la justice sociale. En revanche, comme chef de guerre, Bush, on le voit là dans toutes les analyses d'opinion, Bush a la réputation positive d'être un chef de guerre. Donc on sait très bien que aussi longtemps que la campagne portera sur l'Irak, le terrorisme et l'insécurité, l'avantage va à Bush. Si le débat se déplace vers l'économique et le social, de tradition, ça avait été le cas avec Clinton, l'avantage est du côté démocrate.
Alors, pour prendre le deuxième grand événement qui a pu secouer les États-Unis ces dernières années, c'est bien évidemment l'attentat du 11 septembre 2001 sur les deux tours du World Trade Center de Manhattan. Vous évoquez dans un article du Figaro la naissance du premier empire américain. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous entendez par premier empire américain ?
C'est-à-dire que l'Amérique est un empire de fondation. C'est-à-dire quand, il faut se référer au texte, si vous voulez. Il y a un texte évidemment très, très célèbre de Jefferson.
C'est l'Empire de la Liberté.
Pardon, voilà, l'Empire de la Liberté. Alors qu'est-ce que veut dire Jefferson ? Qui ne fait que reprendre la Déclaration d'Indépendance qu'il a en grande partie rédigée, et la Constitution à laquelle il a contribué. C'est que les États-Unis ne sont pas fondés dans sa logique, la logique jeffersonienne, ne sont pas fondés pour occuper seulement un territoire géographique limité, ou accueillir une population modeste à l'époque, les États-Unis constituent d'emblée un projet universel. On est dans la philosophie des Lumières. Philosophie des Lumières avec référence à un dieu créateur, enfin c'est le dieu de Voltaire pour Jefferson, bien entendu. Donc d'emblée, les États-Unis se fondent sur un projet universaliste qui est assez proche du projet français tel qu'il découle de la Déclaration des droits de l'homme. C'est à peu près, évidemment, c'est la même époque et la même inspiration. Simplement, les Américains, je serais tenté de dire, ont pris leur déclaration au sérieux. Et depuis 1801, ils n'ont cessé d'étendre ce qu'ils appellent l'Empire de la Liberté, c'est l'Empire Imperium, si vous voulez, de la Liberté. Ils l'ont étendu en Amérique du Nord, et puis ils l'ont étendu petit à petit au reste du monde. On a connu des reculs tactiques, par exemple quand les Soviétiques s'y sont opposés, mais dès que la possibilité s'ouvre d'étendre cet Empire de la Liberté, bien entendu, ils y procèdent, considérant que c'est leur intérêt, mais considérant aussi que c'est leur devoir. Et la distinction entre le devoir et l'intérêt, l'idéalisme, le matérialisme, dans la pensée américaine, la distinction n'est pas aussi radicale que chez nous. Donc c'est un empire, mais ce n'est pas un empire qui est fondé dans leur esprit sur la présence militaire ou l'exploitation des ressources. C'est un empire intellectuel, c'est un empire de l'idée.
Et qu'est-ce qui change le 11 septembre 2001 ?
Alors, le 11 septembre, paradoxalement, renforce l'idée d'empire. C'est-à-dire que le 11 septembre est très largement interprété aux États-Unis, très largement. Il existe des exceptions. Vous avez cité Ralph Nader, certains universitaires, l'homme d'affaires George Soros disent bon, tout ça, bon, c'est un accident de parcours, le terrorisme.
Aussi.
Pardon ?
Howard Dean.
Ah oui, Howard Dean, bien sûr, ouais. Mais qui a été éliminé de manière significative par son parti.
Gentiment écarté.
Ah oui, alors ces intervenants disent bon, faut pas exagérer, le terrorisme c'est affreux, mais l'Europe l'a connu, et puis c'est par des opérations de police intelligentes qu'on se débarrasse du terrorisme. Ceci est une interprétation limitée aux États-Unis. L'interprétation dominante, c'est quand même, aussi longtemps que ne règnera pas de manière universelle la démocratie libérale, la version américaine de la démocratie libérale, la tentation du terrorisme sera toujours là et l'Amérique sera toujours une cible. Donc, très intéressant de voir combien le concept jeffersonien d'empire de la liberté a été ranimé, ravivé par l'attentat du 11 septembre. Et la force de cette idée, ce n'est pas d'être juste ou fausse, on ne le sait pas, ou on le sait après. La force de cette idée, c'est d'être explicative et d'être une stratégie, une proposition. En face, ceux qui contestent cette idée n'ont pas réussi à proposer véritablement un contre-projet ou une alternative
vous
historique aussi forte.
Vous parlez de l'Europe ou de l'ONU, par
c'est
exemple.
C'est ça. Voilà. Alors, l'Europe propose de mener des opérations de police. Pour les Américains, mener des opérations de police, ceci revient à perpétuer le statu quo, mais pas aller à la racine des choses. Bon, l'ONU propose une coopération, mais assez vague, avec des pays qui n'ont pas une forte légitimité aux yeux des Américains. Et aux États-Unis même, la position opération de police, disons, incarnée par Howard Dean, n'est pas structurée au point d'apparaître comme la réponse à l'attentat du 11 septembre.
Alors, si je vous suis bien, Guy Sorbon, ça signifie qu'il n'y a pas d'alternative à une forme d'américanisation mondiale.
Ah, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'alternative.
Parce que l'Europe n'est pas à même de réagir, l'ONU n'en a pas les moyens.
Ah bon, je suis très mauvais prophète, c'est-à-dire que je ne fais jamais de pronostics.
Mais c'est pas ce que vous me disiez.
Non, mais dans la situation actuelle, et si je me cantonne à l'analyse, la force de cette analyse conservatrice, celle de l'empire, de la liberté, pas d'alternative à la démocratie libérale, c'est la fin de l'histoire, c'est l'ultime solution. La force de cette idée, c'est qu'elle n'a pas en face d'elle, je le disais, d'alternative aussi construite. La preuve en est que tout le débat électoral américain gravite autour de ce concept et que Kerry le critique, mais il ne le conteste pas. Il ne lui propose pas un substitut. L'idée qu'il est du devoir des Américains d'aider à la démocratie libérale partout, à commencer dans l'immédiat par le monde arabo-musulman, c'est une idée assez largement partagée aux États-Unis, qui est contestée essentiellement dans les marges universitaires.
Et alors, selon vous, cette fameuse mission rédemptrice de l'Amérique, cette idée selon laquelle la démocratisation mettrait un terme à la violence, est-ce que c'est exportable dans tous les pays ?
Écoutez,
parce que visiblement, c'est quand même ce que veulent faire les Américains. Est-ce que ça peut marcher partout ? Est-ce qu'en Arabie Saoudite, on peut imaginer quelque chose comme
ça ? Sur le papier, c'est une bonne idée. D'ailleurs, c'est une idée de papier à l'origine. Ce que les Américains disent, c'est que c'est une idée européenne que les Européens ont laissé choir. Ils se posent souvent comme les véritables héritiers du siècle des Lumières. Est-ce que la démocratie libérale vaut pour toutes les nations ? La réponse philosophique est oui. Elle est oui dans la philosophie humaniste française et américaine. Il n'existe pas ces deux raisons fondamentales de s'y opposer. Les Américains avancent qu'on n'imaginait pas un instant dans les années 40-50 que la Corée, le Japon, Taïwan, pays confucianistes, viendraient des démocraties libérales. Ces pays le sont devenus. Aujourd'hui, nul n'imagine que les pays du monde arabe, vous citez l'Arabie Saoudite, mais on peut citer l'Algérie ou l'Égypte, que ces pays n'ont pas vocation à devenir des démocraties libérales. Ils l'ont été à certains moments de leur histoire, en particulier l'Égypte. Rien ne s'oppose à ce qu'ils puissent le redevenir. Donc je crois que le débat n'est pas tellement sur le message universel des droits de l'homme. La question, c'est sur la manière de le gérer. Et les Américains ne sont pas les mieux à même de le gérer, puisqu'il existe une telle hostilité que les Américains sous-estiment ou ne comprennent pas dans le monde arabo-musulman contre les États-Unis. C'est que le message est peut-être le bon, mais que le messager n'est pas le mieux adapté à son propre message.
Et alors comment l'Europe aujourd'hui pourrait s'affirmer comme une alternative ? L'Europe est quand même un grand ensemble de 25 États, bientôt 28 en 2007. Oui. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'Europe pour avoir davantage d'existence face à l'Amérique, face aux États-Unis ?
L'Europe, en théorie, aurait les moyens économiques et même militaires, même si elle est très en retrait par rapport aux États-Unis, pour porter un projet mondial, mais l'Europe n'a pas ce projet.
L'Europe manque d'idées ?
Elle en a trop. C'est-à-dire qu'elle est extrêmement divisée, puisqu'il n'y a pas une Europe, comme vous le savez, en politique étrangère. Les Britanniques, les Portugais, les Néerlandais, les Danois, les Roumains, les Polonais, les Tchèques sont aux côtés des États-Unis. Dans la guerre en Irak, ils sont présents sur le terrain et partagent l'analyse. Enfin, les Britanniques et les Polonais, en tout cas, même les Portugais, partagent largement cette analyse. Donc, il existe une autre Europe qui soit ne partage pas l'analyse du tout, au nom d'un certain relativisme culturel, peut-être, soit considère que même si l'idée est juste, exporter la démocratie est une folie. Donc, il n'existe, comme vous dites, c'est pas le manque d'idées, c'est l'excès d'idées ou le débordement d'idées et l'absence d'accord en Europe sur un projet universaliste. C'est ce qui fait la faiblesse de l'Europe. Alors, dit que l'Europe n'a pas de gouvernement au ministre des Affaires étrangères, mais s'il y en avait un, je ne vois pas au nom de quelle stratégie il pourrait opérer.
Et pourtant, on se dirige quand même vers peut-être l'adoption d'une constitution, la première. Alors, est-ce que ça peut changer quelque chose ? Est-ce que c'est ce qui manque aujourd'hui à l'Europe ? Une constitution, une politique commune, voire une armée également plus puissante ?
Écoutez, moi, je suis très réservé sur cette affaire parce que je ne pense pas que l'on puisse bâtir des institutions politiques à partir d'une absence de valeurs communes. C'est-à-dire, nous n'avons pas en Europe, enfin, nous avons des textes, mais nous n'avons pas un socle de valeurs partagées, ou alors elles sont extrêmement vagues. Et comme nous n'avons pas un socle de valeurs partagées dans le domaine économique, social ou international, je crains que des institutions politiques communes ne soient totalement paralytiques, ou en tout cas pas à la hauteur de l'histoire, pas à la hauteur de l'histoire présente.
Et alors, si on tentait de moderniser l'ONU, par exemple, si on disait, tiens, l'Allemagne va intégrer l'ONU, est-ce qu'aujourd'hui, on arriverait à une solution un petit peu plus efficace des Nations Unies en réformant cette vieille maison née de l'après-guerre ?
Alors, là encore, sur l'ONU, vous avez deux regards en conflit, je dirais, pour simplifier, le regard américain et le regard français. Le regard français consiste à dire que, certes, les États membres de l'ONU ne sont pas tous légitimes, ils ne sont pas tous démocratiques, mais que tous ensemble, par une sorte de transcendance encore constituée, ils dégagent une sorte de droit international naissant et une légitimité mondiale. Bon. C'est une vision, je dirais, transcendantale, pour simplifier, de l'ONU. La position américaine, les Américains sont beaucoup plus attachés à la démocratie que nous, enfin, c'est un culte aux États-Unis, ils considèrent qu'une assemblée de peuples, de gouvernements, pour la plupart non démocratiques, ne peut pas, même réunis, dégager la moindre légitimité. Donc là, vous avez un écart absolument qui ne peut pas être comblé entre les deux. Alors, on peut certainement aménager les choses, avoir un Conseil de sécurité qui serait plus représentatif avec des grandes puissances comme l'Inde, l'Allemagne, le Brésil ou le Japon. Certes, ce serait moins pire qu'à avoir un Conseil de sécurité qui, par rotation, comprend en son sein des gouvernements dont la légitimité est nulle.
Restez avec nous, suite d'éclairage dans quelques instants, on marque une dernière pause. Je suis aujourd'hui avec l'écrivain Guy Sorman.
Vous écoutez Canal Académie.
Suite d'éclairage avec comme invité aujourd'hui sur Canal Académie, Guy Sorman. Il est écrivain, essayiste et auteur de Made in USA, publié début septembre chez Fayard. Bon, Guy Sorman, on a évoqué l'actualité directe qui va animer les États-Unis le 2 novembre prochain, également la vocation mondialiste de la démocratie telle que les Américains peuvent l'avoir. J'aimerais qu'on évoque enfin les États-Unis face au reste du monde. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui aujourd'hui dénoncent une volonté hégémonique des États-Unis à la fois sur le plan économique et politique ? Est-ce que vous pensez que cette volonté hégémonique est réelle ?
C'était une grande interrogation sur les États-Unis. Il y a les deux thèses, ceux qui pensent que les Américains ont un plan, et puis ceux qui croient, j'appartiens plutôt à la seconde école, qui constatent que les Américains n'aiment pas beaucoup s'exporter eux-mêmes. C'est-à-dire, ils aiment bien exporter leurs produits, leurs services, mais comme nous, Français. Mais ils n'ont pas, d'ailleurs, quelquefois, ceci leur est reproché, ils n'ont pas le tempérament colonial. C'est-à-dire, contrairement aux Français, ils n'ont jamais été. Contrairement aux Français ou aux Britanniques, celui qui s'installait volontiers pour des générations ailleurs, les Américains sont très centrés sur leur propre pays. Ils ont le sentiment que les États-Unis, c'est plutôt le paradis sur Terre. L'exil ou les longues aventures à l'étranger sont assez insupportables. D'ailleurs, l'on constate que quand l'armée américaine se déplace, elle reconstitue immédiatement un mode de vie américain où qu'elle se trouve, pour oublier qu'elle se trouve loin des États-Unis, et que tout homme politique américain s'engage à ramener très rapidement les soldats à la maison. Alors que l'armée américaine est quand même la plupart du temps en mission, parce que l'Amérique est presque toujours en guerre. Donc je crois pas qu'il n'y a pas un projet colonial au sens où il pouvait exister un projet colonial français, britannique, allemand ou italien naguère. C'est quelque chose de tout à fait différent. Encore une fois, c'est un peuple plutôt auto-centré, je dirais plutôt narcissique, pas passionné par les cultures étrangères, qui connaît peu le monde, qui connaît peu les langues étrangères, mais... Malgré cela, dans l'esprit américain, l'idée que le monde entier a droit de vivre, si je puis dire, je mets des guillemets partout, le droit de vivre comme les Américains, c'est une notion assez largement répandue. Si vous voulez,
Le fameux droit au bonheur qui est inscrit dans
le droit au bonheur, oui. C'est la nation américaine a été fondée pour la poursuite du bonheur. C'est la déclaration d'indépendance, quand même assez incroyable, c'est qu'une nation se crée pour poursuivre le bonheur. Mais enfin, c'est le point de départ. Et donc, les Américains poursuivent leur bonheur propre, de préférence chez eux. Si les autres, mais les autres peuvent y participer. C'est-à-dire que la plupart des Américains, quand même, je parle des gens simples, pas des grands intellectuels, ne s'accommodent pas aussi bien que nous en Europe de ce que la Chine soit une dictature, que l'Afrique noire soit en difficulté. Enfin, il y a quand même cette idée très profondément religieuse, je dis issue de la philosophie des Lumières, mais une religiosité qui imprègne les comportements et les pensées, à savoir que quand même l'humanité tout entière a été désignée par Dieu, qui est présent dans la Déclaration d'indépendance, l'humanité tout entière a été désignée pour participer à cette recherche du bonheur.
À côté de ça, les Américains sont bien chez eux. On les a quand même vus depuis le 11 septembre en Afghanistan et maintenant en Irak. Alors, vous, je sais que vous parlez d'attaques préventives, vous analysez ça comme ça, mais c'est quand même une démarche impérialiste, d'une certaine manière.
Écoutez, oui, enfin bon, le terme impérialiste a plusieurs dimensions. C'est-à-dire que les Américains, je crois, se seraient bien passés d'aller en Afghanistan, mais ils ont considéré qu'il fallait aller en Afghanistan et qu'il fallait aller... Il y a toujours eu ce débat très ancien. Il faut aller chercher les terroristes là où ils sont. En tout cas, je ne participe pas du tout. C'est du déterminisme simpliste, un peu marxiste, en disant ce sont les sociétés pétrolières américaines qui déterminent la politique étrangère des États-Unis. En Afghanistan, il n'y a pas de pétrole. Donc c'est beaucoup plus compliqué que cela. Encore une fois, depuis le 11 septembre, il n'y a pas eu aux États-Unis d'alternative concrète, crédible, à la solution qui a été adoptée par Bush. On reproche à Bush d'avoir très mal géré cette opération. On lui reproche assez peu d'avoir envisagé, je dirais, cette... campagne d'éradication du terrorisme partout où il naît.
Est-ce que vous ne pensez pas que l'Irak, compte tenu de la tournure des événements, refroidit un petit peu les velléités des Américains à aller à nouveau lutter contre le terrorisme à l'étranger ?
Alors, bon, c'est tout à fait évident que les difficultés en Irak ne les incitent pas à aller en Iran et en Corée du Nord, qui sont
par
deux
exemple,
pays sur la liste.
Ah bah,
c'est pas par exemple, c'est très précis. C'est très
précis. Par exemple, de manière ironique,
bon,
évidemment.
Donc, certainement, ils chercheront d'autres moyens de déstabiliser le gouvernement iranien et le gouvernement de la Corée du Nord. Bon. Mais je crois qu'il faut se poser une autre question, et qui est la question que se pose le monde arabe. Est-ce que les Américains vont rester ou partir ? C'est ça le débat, parce que en Corée ou à Taïwan ou en Allemagne, au Japon, les Américains sont entrés dans des sociétés non démocratiques qui sont devenues relativement démocratiques ou totalement démocratiques, comme dans le cas de l'Allemagne ou de la Corée. Mais c'est parce que les Américains avaient intériorisé l'idée qu'ils resteraient longtemps, et les Coréens aussi. Bon. Aujourd'hui, dans le monde arabe, ni le peuple américain ni le peuple arabe ne sait et n'intériorise ce concept de durée. Donc, si les Américains partent après-demain de l'Irak, c'est un échec, très probablement. S'il reste 20 ans, peut-être
que...
je ne sais, on ne sait pas. Je veux dire, c'est-à-dire qu'on ne peut se prononcer véritablement sur le grand projet, excessif peut-être, mais le grand projet quand même de démocratisation du Proche-Orient, on ne peut se prononcer qu'en fonction de la durée de la présence américaine. Or, la démocratie américaine fait que tous les deux ans, en vérité, avec le renouvellement du Parlement, tous les deux ans, la politique étrangère des États-Unis est susceptible d'être remise en cause. Donc c'est cette contradiction entre un projet historique, je démocratise le Proche-Orient, et la brièveté des mandats politiques qui posent problème.
Il reste que le cas justement des pays arabes que vous évoquez, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui la preuve d'une forme de limite de cet empire de la liberté de Jefferson ?
Écoutez, encore une fois, je ne sais pas, parce que si moi j'ai regardé attentivement toute la littérature sur les pays confucianistes dans les années 1950, où l'on disait qu'un pays confucianiste, y compris des universitaires américains, ne pouvait jamais devenir des démocraties libérales. Bon, ces prophéties ont volé en éclats. Dire que le monde arabo-musulman ne peut pas se démocratiser, se libéraliser, on ne peut pas le dire. Encore une fois, l'islam offre plusieurs versions, des versions dures et radicales, mais également des versions tolérantes et libérales. Tout dépend véritablement de l'implication dans la durée, et c'est à cet égard que l'élection Bush-Kerry est importante. C'est que si Bush est réélu, l'on aura une inscription dans la durée de cette politique étrangère américaine, quoi qu'on en pense. Si Kerry est élu, on ne sait pas.
Donc si Kerry est élu, qu'est-ce qui va changer ? On ne sait pas.
Mais c'est ça. En fait, le choix est là. D'ailleurs, la campagne est là. C'est que vous avez d'un côté un projet politique qui est celui de Bush, dont on pense que l'on veut, du bien ou du mal. Mais il a l'avantage de la cohérence, à la fois dans son énoncé et dans le soutien populaire du côté conservateur. On a en face une critique du projet de Bush. Mais on n'a pas une alternative au projet Bush. Donc l'élection, on le voit bien, se joue entre le projet Bush et la résistance au projet Bush plutôt qu'une véritable alternative.
Mmh. Et pourquoi un peu le cas français ? Parce que Guy Sorman, vous êtes français, vous êtes fréquemment aux États-Unis, à New York. Comment vous interprétez, comment vous expliquez le sentiment anti-américain des Français, qui est quand même assez fort ?
Ben, il est aussi vieux que les États-Unis. C'est-à-dire que le sentiment, si vous voulez, les
on
États-Unis...
On a l'impression que le français est anti-américain.
Et réciproquement. Je veux dire par là, mais... Pas pour des raisons politiques, pour des raisons historiques et philosophiques. Si l'on remonte aux sources, en fait, les deux projets sont concurrents. Les deux projets sont concurrents. Chacun considère qu'il a une vocation universelle, bon, même si la France a un peu tempéré son ambition, mais l'idée de vocation universelle reste présente dans l'esprit français, ne serait-ce que par le prix que nous attachons à nos missions culturelles à l'étranger, à la francophonie. Nous continuons à exporter... des idées que nous considérons comme universalistes, ce que ne font pas, par exemple, les Allemands ou les Italiens. Donc, nous sommes en conflit philosophique, je dirais, avec les États-Unis à cet égard. Et ce sentiment de la concurrence, il apparaît tout de suite. Les citations sont innombrables. Enfin, Talleyrand, 1794, de Philadelphie, dit, à propos des Américains, « Ce peuple qui a 30 religions et un seul plat, le roast beef aux pommes de terre, n'a pas de civilisation », tout est dit. C'est-à-dire que, à la fois, si vous voulez, le mépris pour un peuple sans civilisation, le délire religieux. Donc, on voit bien que d'emblée, ce qu'on appelle l'anti-américanisme est constitué. Il n'est pas lié à l'impérialisme américain, parce qu'à l'époque où Talleyrand écrit « L'Amérique n'est pas un empire, c'est un tout petit pays », mais à l'état de projet, je dirais que la déclaration d'indépendance des États-Unis est déjà en conflit frontal avec la déclaration des droits de l'homme de la France, même si l'origine philosophique est la même.
Vous avez le sentiment que l'opposition de Jacques Chirac à l'intervention en Irak laissera une trace profonde dans les relations franco-américaines ?
Oui, oui, mais les relations franco-américaines n'ont jamais été bonnes. Si l'on se livre à une analyse précise des relations diplomatiques entre les deux pays... à l'exception de la participation des Français à la guerre d'indépendance, mais c'était quand même il y a deux siècles, c'était l'âge de bronze des relations franco-américaines. Depuis l'âge de bronze des relations franco-américaines, nous n'avons connu en vérité que des conflits diplomatiques qui ont failli à plusieurs reprises au XIXe siècle dégénérer en conflits militaires. Ce n'est que par exception que l'on peut parler d'une amitié franco-américaine. Je parle dans le domaine diplomatique. Et donc, Jacques Chirac, mais comme le général de Gaulle avant lui, s'inscrit dans une posture ou une position, si vous voulez, de rivalité, de confrontation, qui n'est pas nouvelle, mais qui rappelle aux Américains que la France n'est pas véritablement l'allié des États-Unis et a rarement été ressentie comme telle.
Alors, pour terminer, Guy Sorman, comment vous voyez les grands équilibres de demain ? Certains, comme l'essayiste, enfin le philosophe Emmanuel Todd, vous parlent du déclin américain, et d'autres voient le 21e siècle dominé justement par les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre, avec une Europe sur la touche. Est-ce que sur ces deux directions, il y en a une qui vous semble plus cohérente que l'autre, ou plus crédible que l'autre, ou aucune ?
Encore une fois, je laisse les prophètes prophétiser. J'observe simplement qu'il existe une industrie du déclinisme, et qui produit beaucoup de livres, y compris aux États-Unis, qui depuis très longtemps annonce le déclin américain. Bon. Ce déclin ne se traduit par rien. La puissance militaire américaine n'a jamais été aussi forte. L'économie américaine n'a jamais occupé une place aussi importante dans le monde, malgré la croissance de la Chine, de l'Inde ou de l'Europe. Nous constatons surtout que 80% des brevets dans le monde sont des brevets américains. C'est-à-dire que pour l'instant, si l'on s'en tient à la science et à la recherche comme critère de puissance,
ils ont 30 ans intéressant. D'avance.
Ils ont 30 ans d'avance.
30 ans d'avance.
Ah non, on considère qu'ils ont actuellement 30 à 40 ans d'avance. Alors, au-delà, je ne sais pas, mais en tout cas dans l'immédiat, si vraiment il fallait prophétiser, il n'existe pas d'éléments qui permettent d'annoncer le déclin. Je crois que ceci est de l'ordre de la posture et pas de l'analyse. Bon, encore une fois, il ne s'agit pas de s'en réjouir ou de ne pas s'en réjouir. Ceci est un fait. Quant à l'émergence de l'Asie comme nouveau pôle de puissance, j'ai aussi quelques réserves à manifester parce que les pays d'Asie sont très désunis. Il existe entre le Japon, la Corée et la Chine des possibilités de conflits militaires économiques gigantesques. Et cette zone n'est cohérente et n'est en paix et ne se développe que parce que l'armée américaine est présente et qu'elle garantit les frontières du Japon, de la Corée et de Taïwan. Si vous retirez les Américains d'Asie, ce qu'on appelle l'Asie s'effondre. Et qu'au surplus, le développement économique de l'Asie est un développement à la remorque de celui des États-Unis. Ce sont les investissements américains ou les achats américains au Japon, en Chine, en Corée, à Taïwan, qui déterminent l'émergence de l'Asie comme puissance économique. Ce n'est pas une puissance autonome. La puissance économique de l'Asie n'est pas fondée sur un développement endogène ou sur des connaissances endogènes, mais plutôt sur la sous-traitance.
Et l'Inde, puisqu'on ne l'a pas évoqué ?
Alors, l'Inde est la grande puissance émergente, me semble-t-il, du 21e siècle.
Plus que la Chine, donc.
À mon avis, plus que la Chine, parce qu'elle comporte moins de risques. La Chine est toujours au bord de l'explosion entre les 20% de riches et les 80% qui vivent dans la pauvreté absolue. Le régime politique chinois est, comme vous le savez, un despotisme donc totalement imprévisible.
Bien d'accord.
Alors que l'Inde est profondément démocratique et l'Inde ne s'est pas coupée de sa propre civilisation. Donc l'Inde est une expérience passionnante de continuité entre civilisation traditionnelle et modernité, tout ceci baignant dans une démocratie authentique et avec un taux de développement qui rattrape celui de la Chine.
Merci beaucoup. Éclairage recevé aujourd'hui sur Canal Academy. Guy Sorman, auteur de Made in USA, publié au mois de début septembre chez Fayard. Merci d'avoir été avec nous.
Vous écoutez Canal Academy, la suite de votre programme dans un instant.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques. Les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année, Radio Canal Académie leur donne la parole. Connectez-vous et écoutez. Toutes les générations se retrouvent sur Radio Canal Académie. Parce que l'histoire est un éternel recommencement, chaque génération enrichit son présent et son futur. Académiciens et élèves de grandes écoles se retrouvent quotidiennement autour du micro de Radio Canal Académie pour échanger leur point de vue sur un thème choisi. Un thème, un académicien, des élèves, plusieurs générations se rencontrent, toutes se retrouvent. Écoutez-les.
Canal Académie.